Nous allons donc commencer l'étude du livre de Daniel. Daniel, un livre souvent considéré comme compliqué, dont on connaît certains passages, qu'on raconte aux enfants d'ailleurs à l'école du dimanche. On connaît bien l'histoire des trois hommes dans la fournaise, celle d'une main qui apparaît lors d'un banquet et écrit sur le mur, et puis l'histoire bien sûr de Daniel dans la fosse au lion. On sait que certains passages sont repris dans l'Apocalypse, mais comme l'Apocalypse est un livre compliqué, on ne creuse pas trop. Donc, dans un premier temps, ce que j'aimerais dire, nous ne ferons pas toute une série d'études sur des prophéties, des symboles, parce que beaucoup ont écrit, sont dans des avis très divergents. Par contre, toute écriture est inspirée de Dieu, c'est-à-dire que même les passages compliqués nous ont été transmis pour nous enseigner, nous reprendre. Et donc, il faut une bonne connaissance de l'Ancien Testament et de l'histoire de l'époque pour que certains passages difficiles s'éclairent soudain. Mais sans trop entrer dans le détail, il est possible de lire le livre de Daniel et de voir qu'il est extrêmement actuel par rapport aux événements de notre 21e siècle. Le livre de Daniel est parole de Dieu, comme je le disais. Donc, nous allons laisser le Saint-Esprit nous toucher et nous verrons qu'il est vraiment une nourriture pour notre âme. Un petit point d'abord pour le situer dans le contexte historique. C'est localisé dans l'Irak actuel, après une longue domination assyrienne. Les Babyloniens sont devenus les nouveaux maîtres et Dieu a décidé qu'ils seraient l'instrument du châtiment de Juda. Ça a été clairement annoncé par les prophètes Ézéchiel et Jérémie. Les Babyloniens ont vaincu les Égyptiens à la bataille de Carchemish en l'an 605 avant Jésus-Christ. Leur roi Nebuchadnezzar, selon les versions Nabucodonosor, est jeune. Il a conquis toute la zone de la Méditerranée et il a soumis Juda avec son roi Joachim, qui a cru pouvoir se révolter en l'an 597. Le roi a été amené captif à Babylone, ainsi que tous les bons artisans qualifiés. Ézéchiel a été déporté à ce moment-là. Jérémie, lui, par contre, est resté. Il a eu la vie sauve. Puis plus tard, il sera amené en Égypte où il mourra. Nebuchadnezzar a mis Sédécias sur le trône, mais mal conseillé, Sédécias a cru pouvoir se révolter avec l'aide des Égyptiens. Et c'est en l'an 587 avant Jésus-Christ que les armées babyloniennes ont complètement détruit la ville, le temple. On a tué les fils de Sédécias devant lui, on lui a crevé les yeux. C'était une situation terrible. Alors où se situe Daniel dans cette histoire? Daniel est déporté en 605 avant Jésus-Christ, tout de suite après la bataille de Carchemish, à l'époque où Joachim est un vassal. Un bon nombre d'otages est amené, des jeunes gens de la haute aristocratie, dont le roi Nebuchadnezzar fera son personnel administratif. Qui est Daniel? Alors déjà, le livre porte le nom de son auteur. Et l'historien Joseph dit qu'il est de sang royal. C'est un ado. Alors certains disent entre 12 et 20 ans. Il faut savoir que le terme employé est le même que celui utilisé pour Joseph quand il avait 17 ans. En tout cas, c'est un jeune qui a sans doute moins de 20 ans. Il est formé pour une carrière semblable à celle de Joseph à la cour égyptienne. Il accède à de très hautes fonctions dans l'administration babylonienne grâce aux révélations qu'il reçoit pour le roi. Donc on sait que Daniel est un homme d'état de haut rang, un peu un premier ministre. C'est un exemple de piété sans compromis, puisque au chapitre 10, verset 9, l'ange dira qu'il est le bien-aimé de Dieu. Il est aussi un témoin dans un environnement païen qui a tenu bon comme témoin du seul vrai Dieu. Même si nous ne vivons pas la persécution, nous sommes aussi appelés à être des témoins fidèles. Daniel reçoit des visions qui annoncent le triomphe du royaume de Dieu sur les royaumes de ce monde et il va les mettre par écrit. Certaines de ses prédictions sont uniques dans l'écriture, par exemple la domination grecque, les tribulations des Juifs sous Antiochus IV Épiphane à partir de 170 avant Jésus-Christ. Alors on range ce livre dans la Bible, dans les écrits. Daniel n'a pas exercé un ministère de prophète en tant que prédicateur, mais Jésus l'appelle prophète en Matthieu 24, verset 25. Parce qu'en effet, il s'est exprimé au nom du Seigneur, mais il n'a pas été envoyé comme prophète au sens plus étroit du mot, c'est-à-dire un prédicateur envoyé pour prêcher la parole de Dieu, comme ça a été le cas pour Ésaïe ou Ézéchiel. Il ne fait pas de proclamation publique de ce qu'il a reçu de la part de Dieu, mais il les écrit et il note les révélations et les explications des choses révélées. C'est un homme de vision, un sage, Et dans le livre de Daniel, l'accent est mis particulièrement sur cette sagesse surnaturelle. Donc ce livre se compose d'un ensemble de récits, des chapitres 1 à 6, des récits de cour, puis des chapitres 7 à 12, on a toute une série de visions. C'est un écrit bilingue, écrit en hébreu au début et à la fin, et en araméen, du chapitre 2, verset 4, au chapitre 4, verset 28. Je reparlerai un peu de ça plus tard. L'araméen était effectivement la langue de communication de l'Empire. C'était la langue diplomatique. Les chapitres en araméen concernent l'histoire mondiale et s'adressent aux païens, ou la vie des Judéens en exil. Et les chapitres en hébreu s'adressent au peuple de Dieu. Et c'est là la raison de ce bilinguisme. L'Apocalypse va s'inspirer de la théologie du livre de Daniel pour tout ce qui concerne l'opposition entre les royaumes de ce monde et le royaume de Dieu qui doit s'établir. Quelques mots maintenant sur l'authenticité de ce livre. Alors, il faut savoir que c'est un livre qui suscite beaucoup de controverses chez ceux qui l'étudient, beaucoup de disputes aussi entre les spécialistes. Et les critiques qui ne prennent pas la Bible comme parole de Dieu disent qu'il est du 2e siècle avant Jésus-Christ. Les évangéliques, eux, disent qu'il est du 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors, il y en a qui ne sont pas d'accord sur le sens d'interprétation de certains passages, mais on ne va pas perdre de temps avec tout ça, et plutôt se concentrer sur l'avis majoritaire des évangéliques, souvent admis par les gens les plus compétents. J'aimerais aussi aborder le style d'écriture de Daniel. C'est un style apocalyptique. Qu'est-ce que c'est ce style ? Bien, comme nous avons nos propres styles de lecture, que ce soit la poésie, le roman, la nouvelle, la dystopie ces dernières années, avec notamment les livres qui ont donné lieu à des films comme Divergente, Hunger Games, eh bien le style apocalyptique était très commun pour les lecteurs de l'époque. Ce n'était pas un langage codé, mais bien familier. Et cette révélation est assez caractéristique puisqu'elle ressemble à l'Apocalypse de Jean. Les apocalypses n'étaient pas prêchées sur la place publique. Il y a beaucoup de symboles, un langage chiffré, alors que les prophètes parlent avec beaucoup d'images. Ils ne peuvent pas parler dans un langage codé avec des symboles qu'il faudrait interpréter systématiquement. Dans un texte écrit avec un langage chiffré, la vision s'élargit. Elle nous déroule tout l'avenir que Dieu prépare, et c'est ce qu'on trouve d'ailleurs chez Daniel et dans l'Apocalypse. C'est donc un pas plus panoramique, beaucoup plus que chez les prophètes en tout cas, parce que c'est l'histoire du monde qui se déroule sous nos yeux, et l'accent peut être mis beaucoup plus marqué sur l'origine céleste que Dieu prépare. Cet accent est très fortement marqué chez Daniel et dans l'Apocalypse, donc. Et plus que les autres écrits bibliques, les textes apocalyptiques ont un intérêt prononcé pour le cosmos dans son ensemble, pour l'histoire universelle. Ils évoquent les grands empires qui s'y succèdent, se préoccupent du sort de l'humanité dans son ensemble et ne se limitent donc plus à l'intérêt d'Israël et au peuple voisin. Il souligne le contrôle absolu de Dieu. Nous verrons donc certains passages de Daniel qui ont été repris dans l'Apocalypse de Jean, et vous allez voir qu'il est nécessaire de connaître l'histoire politique du peuple de Dieu, tout l'arrière-plan culturel de l'Ancien Testament pour comprendre l'Apocalypse. D'autres styles apocalyptiques qu'on retrouve donc chez Joël, Ésaïe, certains passages d'Ézéchiel, Daniel bien sûr, puis Zacharie. Et ce genre s'est d'ailleurs développé dans les milieux juifs au 2e siècle avant Jésus-Christ, dans un contexte de persécution. Puis, c'est dans le Nouveau Testament que Jean reprendra ce genre en particulier lorsqu'il écrira son Apocalypse. Et d'ailleurs, le mot Apocalypse signifie révélation, donc ce n'est pas fait pour embrouiller, mais pour éclairer. Les croyants persécutés avaient besoin de messages clairs et nets, c'est pour ça que Jean leur a adressé un livre simple. Et pour eux, c'était facile, comme un livre d'images, un peu comme on regarde un film ou une BD. Et à l'époque, les gens raffolaient de ce genre de littérature, parce que les images frappent, elles imprègnent la mémoire. Mais ces paroles sont des paroles de Dieu, c'est-à-dire entièrement vérité qui appelle l'obéissance. Donc on ne peut pas les lire comme des BD. Il y a des symboles aussi que nous risquons de ne pas reconnaître parce que leur origine est tirée de l'Ancien Testament. Les chiffres, par exemple, sont abondamment utilisés. Mais il ne faut pas les prendre littéralement, sinon on va faire fausse route. Je donne pour exemple le chiffre 7, bien connu. L'Évangile comme l'Apocalypse sont construits sur la base de septénaires. Par exemple, dans l'Évangile, Le ministère de Jésus débute par un cycle de 7 jours qui vont culminer avec les noces de Cana. Et puis, il y a 7 signes miraculeux et la passion est racontée sur 7 jours. Daniel, lui, va parler de septaine. Les images sont donc plus puissantes pour communiquer. Comment ce livre est composé? Il se compose de 2 parties vraiment parallèles. Alors, on ne peut pas le voir, mais je vous invite quand même à essayer de prêter attention. La première partie, qui va des chapitres 1 à 5, et la deuxième partie, des chapitres 6 à 12. Juste pour vous mettre en parallèle les grands événements, par exemple, première partie, Daniel accepte de servir le roi, mais il refuse de s'aimer. Deuxième partie, Daniel accepte de servir le roi, mais il désobéit en priant le Seigneur. Première partie, on a 2 images. Avec les empires mondiaux et le royaume de Dieu, l'obligation d'adorer une idole, persécution des juifs, délivrance miraculeuse. Et puis dans la deuxième partie, on a les empires mondiaux, le royaume de Dieu, la suppression du culte et le roi qui se divinise, la persécution des juifs, la délivrance par la disparition de ce roi, et la même expression qui revient dans ces 2 parties, délivrer du pouvoir. On a aussi une deuxième paire dans la première partie, c'est-à-dire qu'il y a 2 rois châtiés. On voit les péchés de Nebuchadnezzar, le châtiment, la restauration. Il y aura 7 temps. Et dans la deuxième partie, on a 2 écrits expliqués. Les péchés de Judas, le châtiment passé, la restauration annoncée et 70 septaines. Dans la première partie, on a l'idolâtrie, l'écriture sur le mur et la fin de Babylone. Et dans la deuxième et dernière partie, on a l'idolâtrie, Daniel écrit, et la fin du monde. Bref, ce livre a vraiment été construit très symétriquement, et ça, il y a une raison que nous verrons plus tard. Les enseignements que l'on peut tirer, en tout cas de cette structure, c'est qu'il y a 2 périodes de l'histoire. Tout d'abord, l'Empire babylonien et le temps de l'exil. Et les chapitres suivants raconteront les faits qui sont arrivés sous l'Empire babylonien jusqu'à ses dernières heures. Et en deuxième partie, nous avons l'histoire universelle qui devait suivre cet empire en commençant par l'empire perse. Et dans chacune de ces 2 parties, un chapitre reprend l'ensemble de l'histoire mondiale depuis l'empire babylonien jusqu'au royaume de Dieu. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'un empire se lève, dure un temps limité, en possédant un pouvoir limité, puis disparaît. Et le sort qui attend le monde et tout empire de ce monde est le même que celui qui a atteint Babylone. C'est Dieu qui conduit les événements en maître absolu. Ensuite, on peut dire que l'histoire de l'empire de Babylone va servir de modèle du monde à l'histoire de tous les royaumes de ce monde. Et la première partie va montrer 2 modèles opposés. D'une part, Nebuchadnezzar qui reconnaît la souveraineté divine et Belshazzar qui ne tient pas compte de la révélation divine. Et cela montre les 2 attitudes possibles pour tout dirigeant dans ce monde. Le thème de l'exil babylonien est aussi un modèle pour toute la période qui suit. La première partie concerne les 70 ans d'exil, auxquels correspondent les 70 septaines de la seconde partie. On voit aussi que Nebuchadnezzar a pris des ustensiles sacrés dans le temple et ils ont été profanés par Belshazzar. Dans la deuxième partie, le temple et les sacrifices où le culte sont profanés à plusieurs reprises. L'empereur babylonien a mis un terme à la royauté judéenne, a détruit Jérusalem et son temple. On voit aussi que dans les visions de Daniel, une personne qu'on appelle Loin, le prince du peuple de Dieu, est retranchée. Et Jérusalem et son temple sont à nouveau détruits. On assiste à une intensification du mal et des difficultés rencontrées par le peuple de Dieu au fur et à mesure que les empires se succèdent dans l'histoire. Dans la première partie, Nebuchadnezzar va se montrer favorable envers les Juifs de sa cour. Et dans la deuxième partie, il aura une opposition à Daniel. Et plus loin, il sera question de persécution bien pire. Ainsi, le livre montre au peuple de Dieu comment vivre sous domination étrangère dans des circonstances plutôt favorables, ça c'est la première partie, et puis dans des circonstances défavorables, ça ce sera pour la deuxième partie. Mais pourtant, à travers la succession des royaumes de ce monde, qu'ils soient favorables ou hostiles au peuple de Dieu, celui-ci subsiste et la victoire finale lui est acquise. Et Jean dans l'Apocalypse a bien compris ce rôle de modèle, parce qu'il va réutiliser le souvenir de l'ancienne Babylone pour évoquer la cité de son temps. Le livre de Daniel présente une composition à deux niveaux, donc le livret araméen qui a sa structure propre, et puis tout l'ensemble du livre qui va se superposer avec sa structure à celle du livre araméen. Brièvement, je vais vous énoncer le plan du livre de Daniel avec, dans la première partie, donc, les récits sous la domination babylonienne, ce qui sera notre premier enregistrement. Alors, il y a les jeunes juifs à la cour babylonienne, le songe de la statue, les trois jeunes juifs dans la fournaise ardente, le songe du grand arbre et l'inscription sur le mur. Ça, c'est la partie que nous allons voir dans ce premier enregistrement. Par la suite, il y aura un deuxième enregistrement qui concerne l'histoire mondiale et sa fin, avec Daniel dans la fosse aux lions, les quatre bêtes et le comme un fils d'homme, le bélier et le bouc, la prophétie des 70 septaines, et puis des dernières révélations sur les temps de la fin, avec l'homme vêtu de lin et son combat, les guerres à venir, le dénouement et puis les délais. Donc nous allons commencer après cette longue introduction l'étude proprement dite du livre de Daniel, mais je crois que cette introduction était importante parce que ce n'est pas un livre qu'on peut lire comme ça, comme un roman. Il faut savoir un peu comment il a été écrit, dans quel contexte, et ça nous aidera beaucoup à comprendre d'autres passages. Dans le chapitre 1, nous commençons ce chapitre qui va nous parler des jeunes juifs à la cour babylonienne. On est à l'an 605 avant Jésus-Christ. Nebuchadnezzar vient d'assiéger Jérusalem. Il faut savoir que tout envahisseur a sa propre manière de traiter ses prisonniers de guerre. Par exemple, on sait que les Romains ont assujetti leurs adversaires en taxant les habitants pour les affaiblir suffisamment, mais en leur donnant assez de liberté pour ne pas créer en eux le désir de révolte. Ainsi, ils pourront vivre dans une certaine liberté, mais comme ils seront limités financièrement, ils ne pourront pas aller au-delà de ce qu'il est possible de faire. C'était donc, chez les Romains, une stratégie bien réfléchie. Mais bien avant cette tactique romaine, les Babyloniens agissaient différemment. Après avoir envahi un pays, les dignitaires d'un pays conquis ainsi qu'un grand nombre de jeunes étaient envoyés à la capitale Babylone. Ils étaient envoyés non pas en tant que prisonniers, mais en tant qu'habitants. Et c'est ainsi que le jeune Daniel fait partie de ce nombre des déportés, ainsi que trois autres jeunes gens. Alors que la ville de Jérusalem est en ruine, voilà que Daniel et ses autres jeunes arrivent dans une ville somptueuse, à la culture immense, à l'architecture impressionnante. Il faut reconnaître que les Babyloniens étaient brillants, et même très en avance par rapport à Juda dans bien des domaines, et très en avance aussi sur tous leurs pays voisins. La médecine, la chirurgie, les mathématiques, on trouvait tout cela à Babylone. Alors de la campagne de Jérusalem, ces déportés arrivent dans une métropole faste et la stratégie babylonienne est la suivante. L'assujettissement par assimilation. C'est-à-dire, les dignitaires des pays conquis, les jeunes, s'habitueront aux coutumes et aux valeurs de ce pays, ils prendront goût à la liberté babylonienne, et tout désir de révolte disparaîtra. Après avoir goûté à la liberté et au pouvoir, tous seront acquis à la cause babylonienne. Ainsi, arrivés à la cour de Nebuchadnezzar, Daniel et ses amis vont être instruits dans les lettres et la langue des Chaldéens. C'est une préparation qui va durer 3 ans, après lesquels ils seront mis au service du roi. Au bout de 3 ans, il était possible pour un prisonnier d'être au service du roi. Voilà la puissance de l'assujettissement par assimilation au service du roi. Grâce à une révélation divine, Daniel gagne la faveur du roi et devient gouverneur de la province de Babylone. Alors la première date indiquée, c'est par rapport au règne de Joachim. Toutes les autres dates prennent pour référence les rois païens. C'est un changement de calendrier qui marque la fin du royaume de Juda et le passage des Judéens sous domination étrangère. On peut déjà se poser une question. Yahvé a-t-il cessé d'exercer sa seigneurie sur son peuple pour le laisser à des rois païens? En fait, non. L'exil est l'occasion de manifester qu'il est le maître de toute la terre. Il est écrit « Le Seigneur livrera entre ses mains C'est une expression qui montre la théologie du livre. C'est le Seigneur qui donne à Nebuchadnezzar la domination sur le royaume de Juda. Dans les versets 1 à 4, on voit Daniel et ses compagnons qui doivent étudier la littérature et la langue des Chaldéens. Ils ont dû assimiler la culture, la pensée babylonienne, ils ont dû étudier la vision du monde de cette civilisation, c'est-à-dire la mythologie, l'astrologie, la magie, la religion, et tout ça en vue des fonctions auxquelles ils étaient destinés. On sait que dans tout le Proche-Orient, il y avait ce style d'école de sages qui formait des conseillers et des hauts fonctionnaires royaux. On sait aussi que l'exil est le châtiment de Dieu sur son peuple. Tous les déportés, dont Daniel et ses trois amis, vont donc subir la conséquence de ce châtiment d'étant déportés. Ce sont pourtant des jeunes qui sont fidèles à Dieu, mais en étant déportés, ils vont subir les conséquences du péché du peuple. Et on peut déjà tirer une leçon de cet exemple. C'est-à-dire que ce que l'on fait dans notre désobéissance peut avoir des conséquences tragiques pour nos proches. Ils ne retourneront jamais dans leur pays. On ne sait rien de leur famille, s'ils en sont été séparés. En tout cas, ils se sont bien intégrés. Ils ne sont pas les pauvres étrangers qui n'ont rien fait pour arriver là, qui dépriment ou qui tournent mal. Ils ont des aptitudes intellectuelles et ils vont les utiliser. Alors, ces quatre jeunes ont étudié pendant 3 ans, mais leur sagesse leur a permis de conserver une certaine indépendance par rapport à ces modes de pensée. On peut se poser aussi la question suivante. Quelle image l'auteur a voulu nous donner de Nebuchadnezzar? Tout d'abord, les illusions d'un homme qui croit tenir le sort d'Israël entre ses mains. C'est un prince jeune et puissant qui remplace un père vieillissant et sans doute malade, se trouve à la tête d'une machine de guerre qui terrorise toute la région. On voit ça dans le livre d'Habacuc aussi. Cette force armée, en fait, c'est un instrument pour assouvir des ambitions bien affirmées. La prise de Jérusalem, c'était qu'une simple étape sur la route qui menait vers la frontière de l'Égypte, qu'il avait l'intention de conquérir dans la foulée de son succès à Carchemish. Le roi est ambitieux, et il veut tout d'abord assurer son pouvoir à Babylone. Il sait ce qu'il veut, et il connaît le meilleur moyen d'y parvenir. C'est un orgueilleux. La cité de David n'est que marchepied sur le chemin de la gloire. Il ne reconnaît pas l'autorité du Dieu d'Israël, dont il dépouille sans vergogne le temple. Et le roi se place au-dessus du vrai Dieu. Il poursuit un parcours bien raisonné en apparence, mais il ne se rend pas compte que le Dieu si faible à ses yeux dirige en fait chacun de ses pas selon un tout autre dessein. Quelle perspective de carrière y avait-il pour les otages israélites? Eh bien, ces jeunes gens doivent servir de fer de lance dans une grande opération de transformation des esprits et du culte de toute la population judéenne. S'ils entrent dans le jeu du roi et lui donnent satisfaction, leur voie est toute tracée et leur avenir professionnel garanti. C'est une occasion de ne pas manquer pour des immigrés. À partir du verset 8, on voit la volonté de conserver une certaine indépendance par rapport à la cour, tout en acceptant de servir du mieux possible. Ils doivent manger, mais ils choisissent de se contenter de légumes et d'eau en refusant les mets du roi. Cause des prescriptions lévitiques, sans doute, parce que le verbe souiller nous renvoie à la nourriture impure du lévitique, et en sachant que toute nourriture à Babylone ou en Assyrie était forcément impure, ils acceptent de servir Nebuchadnezzar, mais dans certaines limites seulement, car leur allégeance première va au Seigneur. Ils acceptent la formation physique, intellectuelle, mais ils vont suivre la ligne de conduite que Jérémie, au chapitre 29, recommandera aux exilés. Daniel a donc compris, malgré sa jeunesse, l'importance de vivre pleinement sa foi dans des circonstances extrêmement difficiles. Il est prêt à collaborer, mais tout en étant diplomate aussi, il obtient ce qu'il demande. Il ne dit jamais « je refuse de manger ça », c'est un bon exemple pour nous. Il a quand même du tact. Il dit, faisons un essai. Appelé à servir dans le monde et à œuvrer pour son bien-être, tout en se souvenant que nous ne sommes pas de ce monde et que notre allégeance première est au Seigneur. Voici le bel exemple que Daniel peut nous laisser. Ces jeunes reçoivent des noms babyloniens. Certains disent que ces noms qu'ils reçoivent évoquent en fait le danger qui les guette. Daniel signifie « Dieu est mon juge ». On va l'appeler Belshazzar, qui signifie que sa vie soit gardée. Anania, qui signifie l'Éternel a fait grâce, son nom va être Shadrach, peut-être une déformation volontaire de Marduk, qui était l'une des principales divinités de Babylone. Il y a Azaria, qui signifie l'Éternel est mon secours, que l'on va appeler Abednego. C'est une forme déviante de Nabu, divinité censée protéger le roi. Et enfin, il y a Michaël, qui signifie qui est comme Dieu, que l'on va appeler Meshach. Alors là, c'est un peu difficile de déterminer l'étymologie. Ce qui est sûr, c'est que dans l'Antiquité, en Égypte comme en Mésopotamie, on atteste la coutume de donner un nom nouveau à un fonctionnaire débutant. Calvin voyait dans ces noms la volonté de détourner ces jeunes de la foi de leurs ancêtres. On voit tout de suite qu'il y a une sagesse exceptionnelle qui remplit ces jeunes, qu'ils ont un don de révélation, et en particulier Daniel. Ce don leur est accordé en vue d'un service d'un empire païen dans ce monde. On peut se poser aussi la question, est-ce que la foi ouvre des portes à toutes les carrières professionnelles? Daniel a des dons exceptionnels, évident, et à la fin des 3 années de formation et de leur confirmation lors d'une épreuve impossible, c'est-à-dire interpréter le rêve du roi, surtout savoir ce que c'est, eh bien une lecture hâtive pourrait faire croire à un étudiant chrétien qu'il suffit de prier pour réussir ses études et les concours et voir les portes du monde des affaires s'ouvrir devant lui pour réussir une carrière exemplaire et vivre finalement une retraite tranquille. Mais en annonçant la nouvelle alliance, Jésus a mis un bémol à cette vision de la vie terrestre. Le croyant doit vivre désormais dans l'humiliation, aussi bien que dans l'abondance, comme le dira l'apôtre Paul, et accepter que la fidélité soit la source même des tribulations dans le monde. Il n'est donc pas question ici de la réussite d'un homme, mais de celle d'une cause qui dépasse la personne choisie par Dieu. Voici donc pour le premier chapitre, et la présentation de Daniel et ses jeunes qui ont été déportés. Maintenant, le chapitre 2 nous parle du songe de la statue. Alors, avant de commencer finalement l'étude de chaque chapitre, je vous conseille de lire le chapitre en entier. Ce sera beaucoup plus facile parce que je ne vais pas tout résumer chaque fois. Le songe de la statue, chapitre 2, eh bien, cette histoire nous rappelle un peu celle de Joseph. Et d'ailleurs, il y a plusieurs similitudes entre Joseph et Daniel, puisque Dieu envoie un songe à Nebuchadnezzar et Daniel l'interprète. Daniel se conserve pur en refusant les mets du roi. Joseph, lui, avait refusé de commettre adultère avec la femme de Potiphar. Les deux récits se déroulent en terre étrangère. Le roi reçoit un songe qui le trouble. Les sages de la cour sont d'ailleurs incapables de l'interpréter. Il y a une insistance sur le fait que c'est Dieu qui livre l'explication du songe. Et Daniel, comme Joseph, souligne que Dieu révèle ce qu'il va faire dans l'avenir. Il se fait remarquer comme quelqu'un qui a l'esprit des dieux. Et les deux récits se terminent en disant qu'ils obtiennent de hautes fonctions. On a la mention de 2 années dans les deux récits, et puis l'accumulation des titres des fonctionnaires appelés par le roi, qui a convoqué toutes les élites à son service, ce qui d'ailleurs fait ressortir l'échec de ces personnes. Les Chaldéens, ce sont des astrologues, et on comprend mieux l'irritation du roi qui entretient les incapables. Alors, qui est le personnel convoqué par le roi à la suite de son rêve? Les mages, ou les magiciens, joueront plus tard un rôle important au moment de l'incarnation, comme des astrologues non-juifs qui avaient déduit d'observations astronomiques la naissance d'un grand roi juif, et ils sont placés en tête, en vertu de leur réputation de spécialistes de l'interprétation des rêves. Les magiciens sont aussi parmi les prêtres, d'origine égyptienne, le mot apparaît déjà à l'époque de l'Exode. Le roi déboussolé, conscient de se trouver dans une impasse, se tourne, comme les Israélites, à la veille d'une catastrophe nationale de tous côtés pour trouver une issue, mais pas forcément la bonne. Et puis, il y a les devins. Les devins, ce sont des enchanteurs qui marmonnent des sortilèges ou des incantations. Et leur formule rituelle aurait dû, en temps normal, soulager l'angoisse qui s'est emparée du roi. Les astrologues, dans les Chaldéens, c'est un terme qui fait débat parmi les exégètes et ça n'est pas très clair. Au chapitre 2, à partir du verset 4, la deuxième partie même du verset 4, L'auteur passe à la langue araméenne, qui est une langue sémitique proche de l'hébreu. D'où vient l'araméen ? L'araméen a d'abord été parlé par les Bédouins nomades qui s'installèrent à la fin du 1er millénaire avant Jésus-Christ, près de la Syrie d'aujourd'hui. Ils se sont alliés avec les Ammonites en guerre contre David. Et à la mort de Salomon, les rois affaiblis par le schisme n'ont pas pu entraver la création d'un grand État araméen. Et leur langue va se répandre rapidement au-delà des frontières et même devenir un moyen d'échange international. Rentrés chez eux, les Juifs adapteront cette langue dans leur vie quotidienne à la place de l'hébreu. Notez, chapitre 2, verset 14, le tact et la soumission de Daniel qui s'est quand même resté ferme dans ses convictions et prises de position. Il est écrit « Alors Daniel s'adressa avec sagesse et tact à Arioch, le chef des gardes du roi, qui s'apprêtait à tuer les sages de Babylone. » Daniel n'est ni révolté, il n'a pas une soumission aveugle, il obtient diplomatiquement un délai. Et en ce sens, il est un exemple pour nous, sachant avoir du tact. Et lors des versets 17 à 18, eh bien on peut dire que Daniel organise une réunion de prière avec ses amis, puis il loue le Seigneur tous ensemble. Et Daniel aurait pu se débrouiller tout seul, mais il a compris l'importance de la communauté. Et la piété des Israélites en exil sera à l'origine des pratiques de la synagogue, puis de l'Église primitive. L'exil va favoriser l'émergence d'une piété nouvelle qui sort du cadre de l'Ancienne Alliance. La piété en exil anticipe la piété en esprit en vérité qui n'est plus liée à un sanctuaire et donc un rituel de l'ère nouvelle. C'est ce que nous rappellera Jésus dans sa rencontre avec la Samaritaine en Jean 4. Puis Daniel bénit Dieu par une prière de louange très lourde en théologie, puisqu'elle contient le message du livre. C'est une affirmation que Dieu donne ou ôte le pouvoir au puissant comme il veut. Au verset 21, je lis « Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre. Il accorde la connaissance. » L'accent est mis donc sur le fait que Dieu est l'auteur de la sagesse. C'est de lui que l'homme la reçoit. Le chef des bourreaux du roi, Arioch, se met en avant. C'est lui qui a trouvé Daniel. Par contre, Daniel sait se mettre en retrait pour que la gloire revienne à Dieu. C'est un modèle encore pour nous à imiter. Le songe du roi est rapporté et Daniel l'interprète. Alors, dans ce qui va être énoncé dans la suite, ce sont les chapitres 7 et 8 qui nous aideront l'interprétation et que je verrai dans un prochain enregistrement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les auteurs évangéliques adoptent un schéma pour lequel ils sont assez d'accord. Donc pour cette statue, hein, chapitre 2, elle a une tête d'or, poitrine et bras d'argent, ventre et cuisses de bronze, jambes de fer et pieds partiellement de fer. On retrouvera au chapitre 7 des choses assez semblables. Au chapitre 8, il y aura aussi d'autres détails qui seront donnés. Et ce qui est sûr, c'est que la tête d'or, on l'identifie à l'Empire babylonien. La poitrine et les bras d'argent, c'est l'Empire médo-perse. Alors, il y a une dualité. Darius a uni ces deux peuples. Les Mèdes étaient des guerriers montagnards. Et les Perses avaient le don d'administrateur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont envie d'emporter, parce que c'était de bons gestionnaires très structurés. Le ventre et les cuisses de bronze sont interprétés comme l'empire grec d'Alexandre le Grand, qui est grand, et de ses successeurs, puisque le royaume a été divisé entre quatre personnes à la mort d'Alexandre le Grand. Et l'empire grec a battu en un temps record l'empire médo-perse. Et puis les jambes de fer et les pieds, partiellement de fer de cette statue, représentent l'Empire romain. Chez les Romains, le lien, c'était le droit romain, plutôt que le sentiment organique d'une nation unique. C'est l'empire le plus blasphématoire de tous, qui est opposé à Dieu. Ce qu'on peut dire de cette statue, c'est qu'elle est le symbole de la grandeur des empires humains, qui ne sont nobles qu'à leur début extérieurement, donc c'est la tête d'or, et au fur et à mesure que le regard s'abaisse pour suivre le devenir de ces empires, On découvre à la fois des matières de moins en moins prestigieuses et une force brutale, le fer des jambes qui ronge sa base fragile. C'est la face cachée des empires humains. Au verset 47, Nebuchadnezzar reconnaît que le Dieu de Daniel est exceptionnel. Israël avait pour vocation de manifester la gloire de Dieu au travers des bénédictions que Dieu lui aurait accordées, s'il avait respecté son alliance. Mais il y a eu désobéissance. C'est pourquoi Dieu va utiliser la nation païenne pour le châtier et se révèle aussi à cette nation. Et pour ça, il va utiliser un jeune homme resté fidèle, contrairement à la masse du peuple. Daniel est déporté, ça paraît injuste. Mais Dieu va utiliser cette injustice pour sa gloire. Et donc, comme on le voit aussi avec l'histoire des bonnes figues en Jérémie 24, il y a un avenir pour les exilés. Dieu commence dès le début de l'exil à œuvrer avec eux. Et les désobéissances d'Israël qui ont conduit Daniel en exil sont l'occasion pour Dieu de se faire connaître aux païens. Ce que l'on verra dans ce thème, on peut le retrouver en Romains chapitre 11. Peut-on parler de conversion du roi Nebuchadnezzar au Dieu d'Israël? En règle générale, les interprètes admettent, avec Calvin, que cette foi est plutôt éphémère, qu'il n'y a pas de vraie repentance, pas de transformation intérieure profonde qui permettrait de parler d'une véritable conversion spirituelle. Et bien qu'ébranlé par l'intrusion de Dieu dans sa vie, il ne se livre pas complètement au Seigneur dans une soumission totale, comme le montre d'ailleurs la statue dressée en vue du culte que ses sujets sont obligés de lui rendre. Et comme dira Matthieu, on reconnaît un arbre à ses fruits. Daniel a une fonction politique très élevée. Et il demande que ses compagnons soient ses collaborateurs. Nous sommes dans le monde, et si les circonstances s'y prêtent, nous pouvons aussi nous engager dans la société, mais sans se salir les mains, en sachant, tout comme Daniel, que notre allégeance première va au Seigneur. Pour résumer en deux lignes ce chapitre 2 sur le songe de la statue, je pourrais dire que le message de ce récit, c'est le message du songe, la durée des empires de ce monde qui est limitée, et c'est Dieu qui la limite. C'est lui qui fait venir la fin de chaque empire. Par contre, le royaume de Dieu est éternel. Je vous invite maintenant à prendre le temps de lire le chapitre 3, bien que vous le connaissiez sans doute par cœur, puisqu'il s'agit des trois jeunes juifs dans la fournaise. Daniel n'est pas mentionné. Il était sans doute en déplacement dans les provinces. Nebuchadnezzar a fait ériger une statue haute de 30 mètres de haut et large de 3 mètres. Il y a tout ce beau monde invité à se prosterner devant une statue en cédant aux caprices d'un homme. La religion dans l'Empire était au service de l'État. Il y a beaucoup d'instruments de musique, c'est un jour de fête. En effet, se soumettre au roi et à ses dieux allait de pair à ses yeux. Ainsi, le roi était le promoteur d'un culte idolâtre. Il le soutenait, l'organisait, forçait tout le monde à y participer. Ça lui procurait la mainmise sur ce culte qu'il contrôlait pleinement. Les prêtres ne pouvaient faire que ses quatre volontés et entraîner la population à les suivre. Le culte répondait aux besoins religieux des populations, tout en les canalisant au profit du souverain. La religion était au service de l'État comme un moyen d'asseoir son autorité. D'ailleurs, le culte de l'empereur, qui sera organisé dans l'Empire romain avec sa curie de prêtres, avait la même finalité. On peut aussi parler de Louis XIV, qui a voulu éradiquer le protestantisme de France. C'était pour unifier la religion de son royaume et pour renforcer son pouvoir, dont la légitimité était garantie par l'Église catholique. On voit donc que de tout temps, les intentions des hommes qui s'élèvent au rang de Dieu ont le même objectif, le pouvoir personnel. Une expression, se prosterner et adorer, nous renvoie au langage d'Exode, chapitre 20. L'ordre du roi est formellement en contradiction avec le deuxième commandement. Un petit parallèle avec l'Apocalypse, chapitre 13, où le faux prophète demande aux habitants de la terre de fabriquer une image de la bête. Puis elle anime cette image pour la faire parler. Alors, dans certains cultes païens, on considérait que les statues des divinités avaient le pouvoir de parler et même d'accomplir des miracles. Et c'est cette croyance qui inspire la vision de Jean. La statue, c'est l'instrument de culte idolâtre qui fixe l'attention des adorateurs, qui attire sur elle leur dévotion. Elle est en même temps moyen de propagande. Elle parle, elle séduit les gens et les conduit à adorer la bête, l'État, au travers d'elle-même. Elle est l'instrument de propagande en faveur de l'État divinisé, de l'homme qui se met à la place de Dieu. Il faut donc se prosterner devant l'image de la bête, sous peine d'être mis à mort. Ainsi, les humains en viennent à servir une image. C'est dire qu'ils sont inférieurs à une statue, alors qu'ils sont image du Dieu vivant et vrai. Ils vont s'asservir aux choses, au monde, à leurs semblables, et finalement à Satan. En servant la bête, ils s'abêtissent. Notons au chapitre 3, dans les versets 17 à 18, Dieu n'est pas obligé d'intervenir. Et les trois amis sont prêts à mourir pour leur foi. Leur allégeance première va à Dieu et pas au roi, quoi qu'il en coûte. Et Nebuchadnezzar aperçoit ce qu'il appelle un fils des dieux à côté d'eux. C'est un ange ou l'ange de l'Éternel. Et Nebuchadnezzar doit reconnaître qu'il y a un Dieu au-dessus de lui auquel est réservée l'allégeance et la loyauté absolue qu'il revendiquait pour lui-même. Nebuchadnezzar s'imaginait avoir pouvoir de vie et de mort sur ces sujets. Mais il se rend vite compte que c'est Dieu qui est maître de toutes choses. Et il est impressionné par l'attitude des jeunes gens. Alors ce passage nous interpelle sur la pression du pluralisme religieux. Quel Dieu est représenté par cette statue d'or ? Eh bien, il n'y a pas de nom de la divinité parce qu'elle ne représente pas un dieu, mais tous les dieux. Au verset 14, le roi dit « Est-ce vrai que vous n'adorez pas mes dieux ?» La société babylonienne était très marquée par le pluralisme. Et selon les experts, il y avait à Babylone plus de 1000 temples dédiés à plus de 300 dieux. Toute la culture de Babylone est basée sur le pluralisme religieux, la clé de la réussite de l'assujettissement par assimilation. Babylone est composée d'habitants des pays vaincus qui venaient à Babylone et avaient le droit de louer le dieu de leur pays. Tous peuvent adorer le dieu. Mais ce pluralisme religieux allait beaucoup plus loin. En privé, tu peux adorer ton dieu. Mais en public, tu dois adorer tous les dieux. En public, tu dois faire comme tout le monde. Dans toutes les villes pluralistes qui ont existé, la problématique est la même. À Babylone, à Rome, en France aujourd'hui, on peut adorer qui on veut, mais en public, il faut affirmer que tous les dieux se valent. Une société pluraliste ne peut pas avoir un ou des groupes prétendant détenir la seule vérité. Notre société est remplie de pluralité, et elles ont pris des formes différentes de ce qu'elles étaient à l'époque, mais elles sont bien présentes aujourd'hui. Il y a la déesse beauté qu'il faut chercher à acquérir, l'idole argent, l'idole santé, le dieu du pouvoir, de l'amour, de la fête, etc. Notre société veut que nous, chrétiens, vivions comme des non-chrétiens et que nous désirions les mêmes choses et que nous appliquions à acquérir ces mêmes choses de la même manière. Ainsi, nous dérangeons lorsque nous refusons de dire du mal d'un collègue, lorsque nous cherchons amour et pardon au lieu de vengeance et violence. Nous dérangeons lorsque nous refusons d'utiliser un langage qui ne glorifie pas Dieu, ou lorsque nous refusons de dire des blagues salaces, lorsque nous refusons d'employer régulièrement les gros mots qui sont en train de passer dans le langage courant, lorsque nous affirmons que la sexualité est limitée au cadre strict du mariage entre un homme et une femme. C'est un peu comme si on nous disait « Pourquoi vous, chrétiens, refusez-vous de vous prosterner devant les mêmes dieux que nous ?» Nous vivons donc dans une société où le pluralisme est oppressant. Cette question de Nebuchadnezzar aux amis de Daniel se pose à nous tous les jours. Est-ce vrai que vous n'adorez pas la statue que moi j'ai fait dresser? Que vous ne prosternez pas devant les idoles de notre société? Cette question est posée à ces gens qui grandissent à Babylone dans leur jeunesse. Ils travaillent pour le gouvernement babylonien. Ils sont impliqués dans la société à tel point que leur nom hébreu n'est même plus utilisé. Ces amis de Daniel ont tout à perdre de leur obéissance à Dieu. Et il serait bien plus simple d'adorer en public les faux dieux et d'adorer en privé le seul vrai Dieu. Ils ont tout à perdre. Le roi leur demande Êtes-vous prêt à reconnaître que tous les dieux se valent? Et la réponse est quand même assez extraordinaire, puisqu'ils disent donc, même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Et c'est une des réponses les plus magnifiques, une des plus belles confessions de foi de la Bible. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Et quand bien même il ne le ferait pas, nous ne nous prosternerons pas devant cette idole. Dieu est Dieu. S'il le veut, il peut nous délivrer de la fournaise. Mais s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas. Ils sont bien confiants. C'est une réponse à propos. S'ils adorent Dieu, c'est parce que Dieu est Dieu. C'est là la définition même d'une foi authentique. Ils préfèrent obéir à Dieu parce qu'il est Dieu et non pas pour recevoir quelque chose en retour. Trop souvent, nous louons Dieu pour recevoir quelque chose en retour. Et ce n'est pas cela la louange authentique. Nous sommes invités à louer Dieu parce qu'il est Dieu et que ce soit à lui seul que reviennent gloire, honneur et louange. La bonne question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est adorons-nous Dieu parce qu'il est Dieu ou parce que nous espérons recevoir quelque chose en retour? Notre motivation envers Dieu est-elle juste ou est-elle intéressée? Pas évident de répondre à cette question. C'est souvent l'arrivée de la souffrance qui va révéler l'état de notre cœur. Si nous louons Dieu parce qu'il est Dieu, l'arrivée de la souffrance sera plus facile à gérer. Mais nous continuerons de louer Dieu parce qu'il est Dieu et qu'il est tout aussi Dieu dans notre souffrance. Si nous louons Dieu pour de moins bonnes raisons, si nous le louons de manière intéressée, alors nous nous demanderons tout d'abord pourquoi cette souffrance, mais pas seulement pourquoi. Qu'ai-je fait à Dieu pour mériter ça? Si même vraiment, pourquoi est-ce qu'il me fait souffrir? À quoi ça me sert d'obéir à Dieu si lui m'envoie la souffrance? Cette louange-là, ce n'est pas de la louange, mais c'est un investissement. Ainsi, ces jeunes disent, notre Dieu est capable de nous délivrer. Mais quand bien même il ne le ferait pas, nous n'adorerons pas de faux dieux. Nous ne nous prosternerons pas devant cette idole. Posons-nous la question, adorons-nous Dieu pour les bonnes raisons? Les amis de Daniel savaient humainement qu'ils avaient tout à perdre à continuer à louer Dieu. Mais Dieu est Dieu, et ça ils l'ont bien compris. Ils ne pouvaient pas se résoudre à dire que le Dieu créateur et les faux dieux créés par les hommes se valent. Dieu est Dieu, et si seul Dieu est Dieu, ils ont compris qu'ils peuvent surmonter l'épreuve. Ils ont une juste compréhension de Dieu et de la foi. La foi, ce n'est pas chercher quelque chose de Dieu en retour. Leur assurance vers la mort vient d'une juste compréhension de Dieu. Ils savent que Dieu est Dieu. Ils savent tout ce que les noms de Dieu impliquent. Dieu est El Eloé, Dieu fort et prééminent. El Elohim, le Dieu créateur et fort. El Shaddai, le Tout-Puissant. Adonai, le Dieu éternel. Yahvé Jiré, l'Éternel pourvoira. Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Yahvé Missi, l'Éternel ma bannière, l'étendard de son peuple. Yahvé El Kadesh, l'Éternel qui sanctifie. Yahvé Shalom, l'Éternel notre paix. Yahvé Tziteknou, l'Éternel est notre justice. Yahvé Roé, l'Éternel est notre berger. Yahvé Shama, l'Éternel est ici. Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. El Elyon, le Dieu très haut. El Roi, le Dieu qui voit. El Olam, le Dieu de toute éternité. Yahvé Osenou, l'Éternel est notre créateur. El Haï, le Dieu vivant. Et à tous ces noms de Dieu, nous pouvons ajouter Emmanuel, Dieu est parmi nous. Et Jésus, l'Éternel sauve. Ils ont compris qui était Dieu. Seul Dieu est Dieu. Alors le roi est rempli de colère, il change de visage. Et la fournaise est chauffée 7 fois plus que d'habitude. Les jeunes gens sont attachés. Et le fait que le roi fasse autant chauffer la fournaise reflète bien la fournaise qui brûle dans son cœur. Mais la surprise du roi est grande. Les soldats qui ont jeté les jeunes sont morts, alors que les 3 jeunes à l'intérieur marchent comme si de rien n'était. Comment c'est possible? Comme il l'avait annoncé au roi, le Dieu qu'ils servent peut les délivrer de la fournaise. Et plus surprenant, il y a un quatrième personnage, verset 25, qui ressemble à un fils des dieux. Au sein de la détresse, ils n'étaient pas seuls. Ils ont bénéficié de l'intervention de Dieu. Dieu ne nous abandonnera jamais au sein de la détresse. Nébuchadnezzar reparle de ce quatrième homme. Il a envoyé son ange pour ceux qui se confient en lui. Dans l'Ancien Testament, il y a les anges et il y a un ange, qui est l'ange de l'Éternel. Quand il intervient, ça n'a rien à voir avec l'ange Gabriel ou les autres anges. Cet ange est Dieu lui-même. Ange signifie envoyé. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même sous forme visible. C'est Jésus. Le messager par excellence, c'est le Christ. C'est donc une théophanie, c'est-à-dire une apparition en préincarnation de Christ. Et ce qui a permis aux amis de Daniel de tenir bon à la fournaise, c'est la présence de Christ. Aujourd'hui encore, ce qui va nous permettre de surmonter toute épreuve, toute fournaise de notre vie, c'est la présence de Christ dans notre vie. Et si nous arrivons à comprendre ce que Christ a fait pour nous, nous arriverons à surmonter toute épreuve. Christ, parce qu'il nous aime, est allé jusqu'à donner sa vie en sacrifice dans la fournaise ultime. Si Christ est venu, c'est à cause de la fournaise, parce qu'il aime l'être humain. Et Christ était prêt à passer par la fournaise de la colère de Dieu. La fournaise de Nébuchadnezzar, c'est rien comparé au feu de la colère de Dieu. À cause de notre péché, nous méritions d'être séparés de Dieu pour toute l'éternité. Nous aurions dû connaître sa colère, passer toute l'éternité loin de son amour. Lorsque nous fêtons Noël, nous nous rappelons de ce miracle que Christ est venu sur terre. Quand nous commémorons Pâques, nous nous rappelons que c'est par la mort que nous méritions que Christ est passé par la fournaise à notre place et que par sa présence, il a permis aux amis de Daniel de vivre. Parce que nous avons préféré du Dieu à qui nous devions tout, nous avons pu échapper à cette fournaise. Donc ne tardons pas à accepter Christ dans notre vie si ce n'est pas le cas. Les versets 28 et 29 du chapitre 3, je crois que je vais les lire parce que c'est quand même quelque chose d'assez fort. Alors Nébuchadnezzar s'écria « Loué soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie plutôt que de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que le leur. Voici donc ce que je décrète. Tout homme de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera d'une manière irrespectueuse du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas de décombres parce qu'il n'existe pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes. » Notons que l'attitude du roi n'a pas changé. Il est excessif et violent dans sa réaction, même si ses propos ont une valeur prophétique certaine, même s'ils annoncent que c'est en Dieu seul que le salut peut être trouvé. Dieu est le Dieu qui peut nous sauver au travers de la fournaise du péché et de ses conséquences. En effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Et qu'au contraire de Nébuchadnezzar, nous laissions cette affirmation porter du fruit dans notre vie. Dieu est le seul par Christ à pouvoir nous sauver. Mettons notre confiance en Christ. Petite conclusion sur cette histoire bien connue, c'est que le message de ce récit, c'est que les royaumes de ce monde et leurs dirigeants n'ont qu'un pouvoir limité. Dieu est Dieu. À partir dans le chapitre 3 du verset 31 jusqu'au chapitre 4 verset 34, il est question du songe d'un grand arbre. On va voir là que à partir du chapitre 3 verset 33, le roi païen confesse la grandeur des œuvres divines, il affirme que le règne de Dieu est éternel, et ça c'est le thème de tout le livre de Daniel. L'éternité du règne de Dieu s'oppose au règne des hommes qui est limité en durée. On est devant un nouveau songe qui montre encore une fois la sagesse limitée des Chaldéens. Et d'après le ton des dialogues, on voit que Daniel, c'est un des hommes de confiance du roi. La réalisation du songe va se produire 12 mois plus tard. C'est un délai pour que le roi se repente. mais qu'il ne va pas mettre à profit. Il oublie le songe et son interprétation. Le roi est privé de sa dignité humaine. Il sombre dans la folie, il se comporte comme un animal, image de l'herbe. On a pensé à une maladie mentale qu'on appelle la boanthropie, au cours de laquelle le sujet se prend pour un bœuf. Et puis, au bout d'un temps de jugement écoulé, le roi retrouve la raison. Et le pouvoir et la domination de Nebuchadnezzar sont de plus en plus appuyés au fil des chapitres. Il accède au pouvoir et son ascension commence. Il règne sur les hommes et les animaux, et puis il affirme sa domination sur tous les peuples. La grandeur de sa capitale impériale, c'est le signe de sa puissance, de sa gloire, de sa majesté. Sa grandeur est parvenue jusqu'au ciel et sa souveraineté jusqu'aux extrémités de la terre, connue de l'époque. Mais c'est justement quand il atteint l'apogée de sa grandeur et de sa puissance qu'il est humilié et qu'il apprend qu'il y a un Dieu qui est le maître au-dessus de lui. Et le chapitre 4, avec ce récit, montre les limites des grandeurs humaines. Un peu, on pourrait aussi faire un lien, un parallèle avec Adam, où Dieu avait confié à Adam la domination sur les bêtes sauvages et les oiseaux du ciel. Mais Adam et Ève ont cédé à l'orgueil et cherché à prendre la place de Dieu. Nebuchadnezzar se voit chassé d'entre les hommes, comme Adam l'a été du jardin d'Éden. Voilà donc pour ce songe. Nous allons maintenant voir l'inscription sur le mur qui va du chapitre 5, verset 1 au chapitre 6, verset 1. Je vous conseille de le lire. Là, il est question de Belshazzar, qui est fils de Nabonide. Ce roi de Babylone ne doit pas être confondu avec le chef du personnel de Nebuchadnezzar. La ville a été prise au cours d'une fête. On calcule que c'est arrivé le 11 octobre en l'an 539 avant Jésus-Christ. À la veille de la chute de la ville et de l'empire, Belshazzar organise un grand festin avec tous les grands. Et c'est une attitude inconsciente ou peut-être une fuite à l'approche d'un désastre. Et on note le contraste entre Nebuchadnezzar, qui s'est glorifié de sa puissance en contemplant ses réalisations architecturales, alors que Belshazzar lui étale son prestige par un grand festin bien arrosé de vin et célèbre ses idoles. Et pendant l'orgie, une main apparaît et grave une inscription sur le mur et le roi est épouvanté. Il est ainsi tourné en dérision, on le voit en situation de faiblesse. Les sages sont incapables de lire l'inscription, contrairement à Nebuchadnezzar. Belshazzar ne sait pas se tourner vers la bonne personne pour interpréter la révélation. Et c'est une femme qui va sauver la situation, certainement la reine mère. Daniel était au service du roi, mais sans doute pas parmi ses proches conseillers comme sous l'époque de Nebuchadnezzar. On introduit Daniel devant le roi. Alors, attention parce que les chapitres se suivent, mais Daniel a bien vieilli, puisqu'à ce moment-là, on estime qu'il a environ 80 ans. C'est un vieillard. La réponse de Daniel montre qu'il n'a pour Belshazzar aucune estime et il refuse les honneurs qu'il avait acceptés sous Nebuchadnezzar. Regardez au chapitre 5, le verset 17, hein, qui refuse en fait les honneurs. Ensuite, les versets suivants, à partir du verset 22, rappellent ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar et annoncent à nouveau la théologie du livre. Et ces versets sont le point culminant. Belshazzar ne s'humilie pas, il profane les objets sacrés de son temple. Nebuchadnezzar peut représenter le roi sage qui parvient à respecter le Dieu vivant, c'est un principe fondamental de sagesse. Et Belshazzar, lui, c'est le roi insensé qui refuse de reconnaître la souveraineté divine. Alors cette inscription, que dit-elle? Il est d'abord question du règne de Belshazzar, ses jours sont comptés. Il est question du roi lui-même. Il ne fait pas le poids, il ne vaut pas cher. Et ensuite, son royaume sera divisé. Et il y a d'ailleurs un jeu de mots entre divisé et perse, qui seront les prochains conquérants. Daniel annonce ainsi la future domination médo-perse. Il a une réaction très étrange, le roi, puisqu'il couvre Daniel d'honneur. Cet épisode marque la fin de la période babylonienne et le début de l'Empire perse. Babylone subit à son tour le sort infligé à Jérusalem. Et c'est la fin de Babylone. Alors un petit détail historique, c'est que pour prendre la ville, Les armées médo-perses ont détourné le fleuve qui traversait la ville. Pendant la nuit, elles sont arrivées, donc par le lit du fleuve asséché. Elles sont passées sur les grilles qui fermaient l'accès à la ville au-dessus du fleuve. Ça a été un effet de surprise. Et la ville a été prise sans aucune difficulté. Donc voici comment le grand empire babylonien a été écroulé. Et cette fin de chapitre, c'est un point culminant du livre. Il y a des contrastes avec Nebuchadnezzar. Le sommet, c'est le mal, c'est la fin de Babylone. Et donc je termine ainsi cette première partie, puisque nous verrons la prochaine fois l'histoire mondiale et sa fin. Et je vous encourage à lire ces chapitres, ou même à relire peut-être la première partie pour bien l'assimiler. Voilà.